France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1988, dans Panorama, Antoine Speer avait réuni Madeleine Reberiou, Michel Field, Josiane Rosine et Serge Volikoff pour une émission spéciale en deux parties consacrée à Pierre Mendès France. Peut-on parler d'un mendésisme? C'était la question posée dans la première partie de cette émission que nous allons entendre. On tentait d'y cerner ce qu'avait été le style et la méthode Pierre Mendès France durant les quelques mois où il exerça le pouvoir, en essayant de saisir comment s'était articulé chez lui au fil des années, avant et après sa présidence du Conseil, son réalisme en matière économique et des conceptions démocratiques et sociales qui situaient cet homme d'État, républicain jusqu'au bout des ongles, sur la gauche de l'échiquier politique. Panorama, émission spéciale Pierre Mendès France, première partie, diffusée la première fois le 25 mai 1988 sur France Culture.
Pierre Mendès France fut le plus jeune avocat de France, le plus jeune député de France, le plus jeune ministre de France. On comprend qu'autour de lui, un mythe se soit constitué. Pourtant, il ne fut que 8 mois à la direction du gouvernement du pays, juin 54, février 55. Mais 8 mois qui comptèrent, ne serait-ce qu'avec la paix en Indochine, l'autonomie de la Tunisie et bien d'autres problèmes que nous allons aborder aujourd'hui. On peut dire que presque tous les hommes de gauche se réclament de Pierre Mendès France, mais aussi certains hommes de droite. Alors, peut-on parler du mendésisme?
Ah ça, j'ai jamais su ce que c'était. Je sais ce que c'est que le gaullisme. D'autant que j'ai connu de Gaulle, que j'ai admiré l'homme, que j'étais fasciné par le personnage. Par conséquent, je comprends les sentiments de ceux qui se sont dit gaullistes. Pour ces hommes, ils avaient une telle confiance, une telle foi, une telle admiration pour de Gaulle, qu'il s'en remettait à lui, il lui donnait un blanc-seing, il le chargeait de régler les problèmes, ils étaient sûrs d'avance que ce qu'il ferait serait bien fait. Je ne vois rien de semblable dans l'action que j'ai menée personnellement. Je n'ai jamais demandé de blanc-seing. Je n'ai jamais demandé qu'on me fasse une confiance en blanc. J'ai toujours essayé de développer, de multiplier les occasions de dialogue, de débat, de contestation, de discussion, de travail d'équipe. Je me suis toujours soumis au contrôle, aux critiques. Et j'ai toujours essayé de déclencher des mouvements collectifs. Par conséquent, loin de rechercher une délégation de pouvoir, je cherchais au contraire à mettre en mouvement le plus grand nombre possible de gens dont je sentais qu'ils pensaient comme moi, qu'ils me confiaient même par moments des responsabilités importantes, mais il s'agissait de leur combat et par conséquent, ils devaient le mener.
Dans les orages et les affaissements de la 4e République, il avait apporté, et la jeunesse de France y avait applaudi, la lumière et le redressement. En moins de 8 mois, il avait arrêté l'effusion de sang de la guerre d'Indochine, donner de façon spectaculaire et à la lettre révolutionnaire un élan décisif à la décolonisation avec l'émancipation de la Tunisie, pris les dispositions les plus novatrices pour notre défense nationale, imprimé aux orientations de notre économie une rare impulsion, inauguré enfin un style et une méthode dont l'empreinte marque encore ceux qui ont à décider où qu'ils se trouvent du destin de la France.
Bilan impressionnant, dit François Mitterrand. Alors, mais il dit aussi style, méthode. Est-ce qu'on ne peut pas parler donc d'un mendésisme, contrairement à ce que disait Pierre Mendès France, Madeleine Reberiou?
Moi, je crois qu'il y a eu une grande confiance dans l'homme, contrairement à ce que disait Pierre Mendès-France. Et que cette confiance dans l'homme Mendès, elle reposait précisément sur les arguments avancés par Mendès pour dire qu'il n'y avait pas de mendésisme. C'est-à-dire que c'est le style de Mendès, c'est sa manière démocratique de s'exprimer, c'est sa façon de s'adresser à tous les citoyens, sans les isoler les uns des autres, en les appelant à une pratique collective, d'une certaine manière issue de la Révolution française, dont il était, à certains égards, profondément l'héritier. Je crois que c'est tout cela qui a fondé une confiance dans l'homme Mendès, qui dépassait de beaucoup les appartenances politiques qui existaient à l'intérieur du communisme, certainement chez les socialistes, moi j'étais communiste, qui existaient chez les socialistes, qui existaient chez des gens qui n'avaient pas d'option politique propre et qui ont fait confiance à cet individu.
Oui, je crois qu'il y a effectivement un mendésisme dû à l'efficacité pratique, avant tout. Avant même la méthode et le style, c'est une réussite, une réussite extrêmement courte, mais la réussite de contrat proposé, effectivement, c'était un homme du contrat. Deux fois, il s'est présenté en 54 devant l'Assemblée pour présenter des contrats. Ce qu'il voulait, c'était la confiance, l'assentiment qu'il a toujours du peuple, qu'il a toujours demandé et qu'il a posé avant toute priorité.
Michel Field.
Oui, moi, je ne pense pas qu'il y ait de mendésisme. Je crois qu'il y a une figure, et cette figure, c'est l'homme. C'est effectivement, François Mitterrand a raison, c'est son style. Il me semble d'abord un style, une capacité. Alors, ce qui est devenu aujourd'hui une aspiration de toute la classe politique, au parler vrai, hein, je crois que ça se résume à ça. Alors, c'est déjà énorme. Hein, c'est déjà énorme qu'un homme du parti, sans doute le plus, ou d'un des partis les plus magouilleurs de la 4e République, savoir le Parti radical, ait réussi finalement à neutraliser cette appartenance au Parti radical pour apparaître comme précisément l'homme de l'anti-magouille, l'homme de l'anti-appareil, l'homme de l'anti-compromission.
L'homme de l'anti-promesse, je crois que c'est ça le style Mendès-France. Il a toujours dit, notre règle sera de ne jamais faire de promesses que nous ne pourrions tenir, mais de tenir compte coûte que coûte de celles que nous ferons.
Mais c'est plus une attitude qu'un système.
Et je crois que s'il y a un style, c'est parce qu'il y a eu une réussite et une efficacité pratique d'abord. Et ensuite, effectivement, le style a été, si vous voulez, extrêmement courtisé, ce style Mendès-France. Il faut dire qu'il n'est pas très loin du style gaulliste. Quand le 18 juin 1954, il fait son discours d'investiture, il n'oublie pas de rendre hommage à De Gaulle en lui disant « Vous m'avez donné le haut esprit patriotique et vous avez su me faire passer toujours l'intérêt général suprême de la nation. »
Serge Bolikov.
Moi, je crois qu'il faut nuancer parce que je crois qu'il y a eu une tentative, une ébauche de courant politique qu'on pourrait appeler le mendésisme à une époque et qu'ensuite, ce courant s'est déstructuré. Je pense que dans les années 50, au moment de l'expérience gouvernementale de Mendès-France, il y a eu comme la constitution d'un courant politique composite qui n'a pas réussi en quelque sorte à se prolonger. La tentative de Mendès-France après son expérience gouvernementale de moderniser le parti radical, d'en faire un parti central de ce courant, a été un échec et c'est ce sur quoi peut-être il faut réfléchir. Je crois que Mendès-France exprime, disons, la stratégie d'occuper un espace politique entre un parti socialiste en crise, déclinant, un parti communiste qui demeure puissant et une droite qui est encore marquée par la période de l'occupation. Et c'est ce courant-là qu'il va essayer de structurer.
Vous avez mentionné l'inquiétude d'une planification qui aurait un caractère dictatorial. La méfiance provient dans une large mesure du fait que, historiquement, la planification a été pratiquée tout d'abord dans l'Union soviétique et puis dans les pays qui subissent son influence, et que la planification dans ces pays-là a été totalement autoritaire, centralisée, et qu'elle a fait bon marché de tous les intérêts, même les plus légitimes, des individus qui sont en cause. Tous ont été purement et simplement assujettis aux nécessités de la réussite d'une entreprise décidée au sommet et imposée à tout le monde.
Exactement.
Sans qu'à aucun moment n'intervienne aucun élément de respect de la personne humaine et de sa liberté. Dans nos pays, c'est une planification qui, loin d'écraser l'individu, lui fait sa place, lui reconnaît une place décisive. Dans une économie rudimentaire, comme pouvait être celle de l'Union soviétique en 1917 ou 1920 ou 25, ou comme la Chine d'aujourd'hui, ou comme celle de tel ou tel pays africain, dans une économie rudimentaire, la planification peut être conçue comme une série de décisions relativement simples, simples peut-être pas appliquées, mais relativement simples à déterminer, que l'on peut confier en effet à une poignée d'hommes siégeant au sommet et auxquels on donne tout pouvoir. Mais que, dans la mesure où une économie se diversifie, devient plus complexe, comme c'est le cas de nos économies modernes, une planification totalement centralisée, et purement et simplement déléguée à une poignée d'hommes, n'est pas réalisable. Et que la complexité même de l'économie exige toute une série de démultiplications, de délégations, de décentralisations. Par conséquent, on en arrive forcément à un système beaucoup plus démultiplié, où des corps locaux, des régions, des autorités responsables de certaines entreprises importantes doivent jouer un rôle dans l'élaboration des décisions, dans l'exécution des décisions, et ne plus se contenter d'obéir servilement comme des robots à des ordres venus d'en haut.
La monnaie ne doit pas être une création ou un élément indépendant. La monnaie doit être évidemment au service des échanges, du commerce et de la production. Par conséquent, il faut trouver le moyen d'établir une relation entre la vie économique et la vie monétaire. C'est pourquoi je crois qu'il serait bénéfique pour tout le monde, pas seulement pour les pays producteurs de matières premières, mais pour tous, de ne pas asseoir notre système monétaire uniquement, comme c'était le cas autrefois et aujourd'hui encore dans une petite mesure, sur l'or, qui n'est pas représentatif de la vie économique, qui est une marchandise un peu spéciale, mais enfin une marchandise parmi d'autres. Donc, pas uniquement sur l'or, mais aussi sur des encaisses mieux représentatives de la vie économique, ces encaisses pouvant être constituées de matières premières, de produits de base, dont l'industrie, dont les consommateurs ont besoin. Ces produits de base, ces produits primaires, constituent en réalité la matière première, on peut le dire sans jeu de mots, de l'ensemble de la vie économique. Leurs cours sont d'ailleurs très représentatifs de la conjoncture économique, et par conséquent, ils pourraient fournir une fondation correcte pour un système monétaire qui, je le répète, aurait l'ambition d'être en rapport avec la vie économique.
Au risque de paraître trivial et vulgaire, j'aimerais qu'un gouvernement demain, un gouvernement de gauche, un gouvernement vraiment attaché au progrès, s'occupe un peu plus de ce qu'on appelle dédaigneusement aujourd'hui l'intendance. Je ne suis pas du tout indifférent lorsque je sais que des millions de Français vivent dans des taudis. Je ne suis pas indifférent lorsque je sais que d'innombrables enfants ne peuvent pas recevoir l'enseignement dont ils ont besoin. Je ne suis pas indifférent lorsque je sais que les chercheurs français, qui ne valent pas moins que les autres, ont moins de laboratoires, moins de moyens de travail que les chercheurs étrangers. Et je crois qu'un gouvernement de progrès, soucieux de la vraie grandeur, soucieux véritablement de l'avenir de notre pays, s'occuperait un peu plus de ses besognes, de l'intendance, et un petit peu moins de la mise en scène et de la propagande.
Monsieur le Président, dans l'état actuel des choses,
l'intendance, même si le mot vous paraît vulgaire, je veux dire par là un progrès plus rapide, plus dynamique, plus d'ambition, plus de volonté de réalisation dans le domaine économique qui a été systématiquement négligé par ce gouvernement-là.
Soit rapide, Monsieur le Président, si vous étiez au pouvoir, envisageriez-vous un certain nombre de nouvelles nationalisations? Lesquelles? Si oui, et dans quel
C'est une toute autre affaire dont je suis d'ailleurs tout prêt à vous parler. Mais c'est une toute autre affaire. J'étais en train actuellement de vous dire, puisque vous m'avez demandé en quoi un gouvernement de progrès, un gouvernement de gauche se distinguerait du gouvernement actuel. J'étais en train de vous dire qu'un gouvernement de progrès se soucierait de l'amélioration de la production de ce pays, du développement, de la création de richesses et d'une meilleure distribution de ces richesses entre les divers besoins qui sont à satisfaire.
Une économie finalisée donc. Alors, si on examine les
projet, en fait, de Mendès France en matière économique, aussi bien pour ce qui est de le plan que pour ce qui est de la monnaie. On peut dire que c'est des idées quand même relativement originales, à tel point que lorsqu'il présente ses idées à De Gaulle en février 1945, il est en train, à ce moment-là, d'envisager de démissionner parce que De Gaulle ne suit pas ses avis. Il parle d'orientation du crédit, il parle d'investissement public, il parle d'incitation à l'autofinancement. Et à chaque fois, cette discussion dure très longtemps, presque une journée entière. C'est presque, paraît-il, dit la couture, la seule journée entière que De Gaulle a consacrée à l'économie. À écouter Mendès France. On a l'impression quand même que les conceptions de Mendès France sont originales. Elles tranchent sur celles des autres. Et est-ce que c'est finalement pas fondamentalement cette idée d'une économie finalisée, Madeleine Ribeyrieux?
Oui, je pense qu'il y a l'idée d'une économie finalisée, mais il y a aussi les échos tardifs, oui, par rapport aux années de jeunesse de Mendès, du débat sur la planification des années 30, hein, d'un débat intense qui s'est déroulé dans le Parti radical avec les jeunes radicaux, qui s'est déroulé en Belgique autour de gens comme Henri de Mans, qui s'est déroulé chez les socialistes. Et l'idée que le capitalisme est devenu un phénomène sauvage auquel il n'est possible de répondre pour le bonheur du peuple, que par la planification, et je crois extraordinairement fort chez Mendès. Le premier texte que nous avons entendu tout à l'heure, de ce point de vue, je dirais presque que par son souci de mettre l'accent sur le caractère démocratique de la planification, souci tout à fait essentiel, il est un peu en retrait par rapport à la vision que donne Mendès de la planification, aussi bien en 45 que dans les années qui vont de 55 à République moderne. À ce moment-là, ce qu'il met en évidence, c'est l'urgence, la nécessité absolue de la planification. Et liberté sans doute, mais je lis ceci, y compris dans République moderne, la firme nationalisée doit être toujours au service du plan. Pour elle, le plan est impératif, donc plan indicatif. Sans doute, parce que ce n'est pas une poignée de bureaucrates de diriger l'économie nationale ou d'inciter l'économie nationale. Mais par-delà ce processus de pénétration de ceux qui dirigent, de ceux qui gèrent et puis des citoyens, dont on ne voit pas tout à fait bien comment il peut se produire, mais enfin qui est un idéal, qui est l'objectif de Mendès, la nécessité que le plan soit impératif pour les secteurs majeurs de l'économie et pour les banques, est tout à fait central dans la pensée de Mendès. De ce point de vue, il est vraiment aux antipodes du libéralisme.
Michel Field.
Oui, en même temps, tout ça est vrai, mais en même temps, je trouve qu'il a une façon extrêmement originale de dépasser le vieux clivage sur le plan, c'est-à-dire entre centralisation et décentralisation, pour dire rapidement les choses.
Ah, j'ai pas dit ça, hein. Justement, j'avais pas posé ce problème-là.
Voilà, mais lui le fait, c'est-à-dire pour lui, le plan, c'est à la fois l'instrument qui va permettre, et là, je crois qu'il est très marqué aussi parce qu'il a dû faire en 45, c'est-à-dire effectivement, seules des décisions centrales, voire y compris autoritaires, par exemple pour résoudre la masse de la monnaie qui circule, etc., mais en même temps donner par une logique contractuelle, par une logique de négociation décentralisée, donner la plus grande autonomie au plan régional, etc. Et ça, je crois que c'est une façon quand même très originale de penser le plan.
En 1958, effectivement, il y a cette option pour la décentralisation aussi bien politique qu'économique.
Mais qui n'est pas contradictoire avec...
Non, pas du tout.
Et ça, finalement, c'est une façon très originale de penser le plan dont la classe politique française n'a pas tiré profit, parce que finalement, elle reste totalement divisée sur un ancien clivage qu'on a l'impression que Mendès aurait pu ou aurait voulu dépasser.
C'est parce que Mendès, dans ce domaine-là, est profondément un politique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pense pas seulement l'État, tout en pensant très fortement l'État, à mon avis, mais qui pense vraiment le peuple. Enfin, au sens révolutionnaire français du terme, au sens de 89 à 93.
Mais du point de vue du rapport entre l'État et le peuple, est-ce que finalement, puisqu'il a un projet réel, qui est un projet d'homme d'État, est-ce qu'il n'est pas obligé de s'entourer d'un certain nombre de technocrates, et est-ce qu'il ne fait pas énormément confiance à des technocrates comme moyen de liaison entre le peuple et lui en matière d'économie? C'est-à-dire que lorsqu'il s'entoure de gens comme Georges Boris, de gens comme même Jules Mock, il les utilise comme des techniciens, et est-ce qu'il n'y a pas une manière chez lui de privilégier les techniciens par rapport aux politiques?
C'est-à-dire que dans la première période, en 1944-45, ses causeries hebdomadaires du samedi, alors qu'il est ministre de l'économie, portent sur l'économie et il s'adresse à la population pour essayer de parler vrai et de les informer sur la situation économique réelle du pays. Et donc, c'est un appel à l'effort, au sacrifice, et notamment, je dirais, au nom d'une certaine intransigeance pour ne pas augmenter exagérément les salaires et les prix. Et à ce moment-là, je dirais que de ce point de vue, il apparaît comme peu politique au sens conjoncturel et immédiat du terme. Et quand De Gaulle le lâche au profit de Pleven, c'est sur cette base-là, en disant on ne peut absolument pas, dans cette situation de la France de 1945, bloquer les salaires, faire une réforme monétaire qui aboutirait à, désillusionner une partie de la population qui s'est engagée dans la grève au moment de la libération.
Ou désenchantée.
Désenchantée. Et
Mendès France est malade et le traitement de choc ne peut pas...
Voilà. Et alors là, Mendès France est mieux rompre que de rester dans un gouvernement où ses idées sont mises à mal. Et ça, je crois que c'est quand même une de ses caractéristiques. Une certaine intransigeance ou une attention au principe, une certaine fidélité au principe. Cela dit, il change quand même. Je crois que dans les années 60, il ne met plus l'accent sur les mêmes problèmes. Sa position à l'égard de la planification gaulliste centralisée telle qu'elle s'est développée au début des années 60 l'amène à mettre l'accent effectivement sur ces aspects décentralisation, élaboration démocratique du plan, au moment où le plan n'est plus du tout ce qu'il était en 46-47 à ses origines.
Est-ce qu'il n'y a pas un certain volontarisme économique chez Mendès France, en fait, qui est très fort en 45, très fort aussi quand il est dans le cabinet Blum, et qui, en fait, petit à petit, peut-être avec l'âge, peut-être avec la situation politique aussi, va déclinant, et au fond, ce volontarisme économique se matine à ce moment-là de essayons de discuter avec les gens, essayons de faire cette planification décentralisée dont on a parlé, etc.
Oui, et en même temps, ayons des informations qui soient sérieuses. Parce que moi, j'ai été intéressé par un texte qui est de novembre 58, qui est la préface qu'il a écrite au livre de Louis Ballon, La France fait ses comptes. Et dans ce texte, il met l'accent sur la naissance de la comptabilité nationale, sur son caractère tardif en France, sur les hommes qui l'ont mise en place. Enfin bon, Pérou, mais aussi Pierre Ulrich, Claude Gruson. Claude Gruson, très important. Bon, qui retrouvera dans le PSU, j'imagine. Bon, Simon Nora, bien. Et il explique bien que l'empirisme traditionnel est dépassé et que, comme une entreprise, finalement, la nation a besoin de disposer d'une non seulement d'une connaissance sur l'état de son économie, mais plus que cela, parce qu'il ne sépare pas l'un de l'autre, d'une conception du développement de la collectivité. Et il considère que savoir comment peut se développer la collectivité, pas seulement comment il doit, cela rend nécessaire l'existence de la comptabilité nationale, aujourd'hui impuissante, tout le monde le sait, enfin, qui aujourd'hui ne dit pratiquement plus rien de sérieux sur les comptes de la nation, mais à la naissance de laquelle il assistait dans les années 58. Alors, cela crée des technocrates, naturellement, mais c'est quand même assez remarquable que ceux qui ont mis en place la comptabilité nationale ne soient pas, dans leur ensemble, devenus des technocrates, disons, de droite. Enfin, ce n'est le cas ni de Pierre Ury, évidemment, ni de Claude Gruson.
Michel Field.
Oui, en même temps, je crois que l'idée d'un volontarisme qu'évoquait Antoine Speer est tout à fait manifeste, par exemple, sur le domaine de la théorie de la monnaie marchandise dont il parle. C'est que, je dirais, idéalement, il a raison. Il a raison. Faire fonctionner un certain nombre de matières premières et de marchandises comme encaisse monétaire, à la fois, c'est d'ailleurs une revendication qu'on retrouve dans des revendications aujourd'hui d'un certain nombre de pays du tiers-monde, notamment africains, c'est effectivement stabiliser les cours de ces matières premières, etc. Bon, donc, idéalement, il a raison. Et je dirais, au niveau d'une volonté politique, il a raison de s'appuyer sur des travaux d'économistes comme Graham ou Goudrian qui ont été les promoteurs de ça. Mais en même temps, derrière ce volontarisme se cache quand même, j'oserais pas dire une incompréhension, en tout cas une mauvaise vision de ce qu'est devenu ou ce que devient sous ses yeux le capitalisme international. C'est-à-dire précisément l'idée de la monnaie marchandise, c'est une idée qui vise à resserrer les liens entre le capitalisme financier et le capitalisme productif. Or, ce qui se passe sous ses yeux, c'est précisément la grande autonomisation du capitalisme financier. Et alors, il dit finalement, pourquoi pas les matières premières plutôt que l'or ? Mais la question, au moment où il la pose, ne se pose déjà plus en ces termes-là. C'est plutôt, ça n'est déjà plus l'or, c'est le dollar avec tout ce qui se passe d'une monnaie qui soit à la fois internationale et nationale. On voit aujourd'hui encore, finalement, l'usage que les États-Unis font de cette duplicité de leur monnaie nationale qui sert de monnaie d'échange. Donc il y a quand même les deux, et je dirais que derrière la volonté politique, quelquefois affleure un certain type d'irréalisme d'utopie.
Mais il n'y a pas d'analyse du capitalisme international chez Mendès, ni naturellement du capitalisme américain.
Serge Volikov.
Mais je dirais que d'une certaine façon, c'est les moments où il a cette dimension utopique qu'il demeure, moi je le pense, le plus actuel. En tout cas, il dit des choses pour aujourd'hui ou pour demain. Parce que la question n'est pas résolue. La fuite dans le capital financier n'a pas résolu à l'échelle planétaire ses problèmes. Alors vous avez raison de dire que c'est aujourd'hui posé encore.
Les syndicats, par conséquent, ne peuvent plus se contenter d'un rôle de pure revendication. Ils doivent conserver, bien sûr, leur totale indépendance et leur droit de revendication. Ils sont là pour ça. Mais En dehors de cette activité-là, une activité différente va venir s'ajouter si nous arrivons à bâtir une Europe, notamment au point de vue économique. L'activité des syndicats ne s'arrêtera pas aux frontières, que probablement entre les organisations syndicales des différents pays en cause se noueront des liens plus serrés encore que par le passé, de manière à ce qu'ils délibèrent sur la politique économique des différents pays en cause et à ce qu'ils exercent leur influence sur leur gouvernement d'une manière qui ne sera plus alors strictement fonction de préoccupation nationale, mais qui sera désormais fonction d'une perspective européenne.
La France, si on l'oblige à se résumer dans ces deux forces opposées, n'est pas fidèlement représentée. En ce sens, nous avons un régime qui n'est pas honnêtement représentatif. Nous avons un régime qui falsifie le débat politique. Bien sûr, aux États-Unis, en Angleterre, etc., voilà des pays dans lesquels le débat entre deux blocs, en gros, correspond à la psychologie politique. Tant mieux pour eux, ça simplifie beaucoup les choses. Et les Français ont l'esprit fait autrement. Ils ont peut-être tort, mais il faut les prendre comme ils sont. Les Français ne sont pas honnêtement représentés si on veut les contraindre continuellement à choisir par le oui ou par le non. Il y a un référendum, c'est oui ou c'est non. Il y a une élection présidentielle, il n'y a que deux candidats. Il y a une élection législative, à travers le pays, il n'y a que deux coalitions. Tout ceci est voulu. Et par conséquent, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où beaucoup de gens ne sont pas à l'aise. Mais c'est le résultat du système politique qui nous a été imposé.
Alors à cette époque de la République moderne, à cette époque où Mendès France réfléchit beaucoup sur l'État, et ce livre va avoir un succès absolument formidable, 100 000 exemplaires, alors qu'on ne s'y attendait absolument pas, en quelques semaines, trois semaines je crois, on se rend compte que Mendès France, d'une part, critique ce qu'il y a de non moderne dans la France contemporaine, et puis il a des perspectives avec le rôle des syndicats, donc il veut voir agrandi, il a des perspectives aussi avec toute cette réflexion sur soit manque d'exécutif en France, soit excès d'exécutif. Et il montre que la planification démocratique, qui est la clé de voûte pour lui, d'un gouvernement neuf, organiserait l'investissement productif et surtout, elle ne pourrait finalement se déployer totalement que dans la mesure où elle s'articulerait sur des institutions réellement démocratiques. Et on revient à la critique des institutions de 58. Il y a un lien là chez lui, dans la République moderne, entre le problème institutionnel et le problème économique. Madame Ribériou.
C'est ce qu'il dit sur le syndicalisme qui m'a le plus intéressé. J'avoue que je l'avais complètement oublié. Alors, ce qui s'appelle « oublier ». Et ça m'a intéressé parce que on voit bien qu'il y a deux idées forces. La première idée, c'est que le syndicalisme doit rester un syndicalisme de revendication dans un État où il y a des patrons, où il y a y compris un État patron, mais où il y a des patrons. Bon. Mais qu'en même temps, il doit devenir un syndicalisme de proposition, de construction, comme il dit, participer à la construction de la nation moderne. Bon, là-dessus, bien, on imagine que c'est pas bien reçu, enfin, on voit très bien les oppositions syndicales devant une pareille proposition, et on voit très bien comment ce débat est toujours actuel. Syndicalisme de proposition, syndicalisme de revendication et de défense primaire hein, de ceux qui sont attaqués dans une société où le capital reste tout puissant. Mais il y a un deuxième aspect qui est plus intéressant et alors extrêmement moderne, c'est la place qu'il attribue à l'entreprise et c'est la manière extrêmement audacieuse dont il traite du syndicalisme d'entreprise. Il y a un véritable plaidoyer dans République moderne pour la section syndicale d'entreprise que j'avais totalement oublié pour ma part. Alors quand on pense que la grande conquête syndicale de mai 68, ça sera la conquête de la section syndicale d'entreprise, de la voir ainsi exposée dans ses tenants, ses aboutissants, comme étant ce qui doit permettre à la classe ouvrière, enfin au monde salarial dans son ensemble, hein, mais lui, il n'hésite pas à dire la classe ouvrière, de s'affirmer dans l'entreprise face au patronat, c'est tout à fait passionnant. Face au, et naturellement dans un dialogue avec aussi. De la même chose pour les comités d'entreprise, dont il constate en effet qu'ils n'ont pas tenu les promesses qu'on en attendait lorsqu'ils ont été créés à la Libération, et dont ils pensent qu'il faut les relancer avec leur fonction sociale et leur fonction culturelle dans l'entreprise. Et l'importance qu'il attache du coup à la formation des militants, rejoignant par là ce grand débat sur l'université et la recherche qui est un élément essentiel de la modernisation de la nation.
Michel Field.
C'est certainement ces points où il est le plus, non seulement moderne, mais je dirais qu'il anticipe encore sur les blocages actuels de la réflexion politique. Cette volonté, finalement, de contrebalancer la nécessaire puissance étatique par une véritable irrigation de la société civile avec des modes de représentation les plus ajustés à chaque fois. Et c'est d'ailleurs, si on repose le débat sur le plan politique, la chose fondamental qu'il reproche au gaullisme en 58. C'est finalement pas... Je crois pas que lui aurait écrit le coup d'État permanent. Enfin, je veux dire par là que la peur du coup d'État fasciste de Gaulle, etc., c'est pas ça. Il tient l'homme en trop grande estime. Mais il le dit dans le discours 58, c'est l'absence de fondement démocratique du gaullisme qui, pour lui, sera, du premier jour, la tare absolument originelle et irredressable. Et au niveau anecdotique, on peut aussi se rappeler...
Donc le relais politique pour l'économie.
Donc le relais, bien sûr. Et on peut se rappeler aussi sur cette sorte d'attention très forte aux formes mêmes de la représentation et de la légitimité des représentations. Cette anecdote, on se souvient que quand il a été renversé en 55, il a pris, après le vote de renversement, il a pris la parole à la Chambre, ce qui, d'un point de vue formel, était une erreur parce qu'il n'avait pas le droit. Et dans le livre de la Couture, 20 ans après, il en reparle avec une sorte de... Il dit qu'il a fait une connerie, mais on sent... d'un certain point de vue, qu'il est extrêmement affecté du souvenir de son attitude qui, un jour, l'a mis en contradiction avec les règles formelles, aussi formelles soient-elles, du rapport entre un gouvernement renversé et la représentation nationale.
Je me souviens effectivement de ce discours qu'il a fait en partant, donc lorsqu'il a été désapprouvé par l'Assemblée, et il a bien dit que c'est pas l'échec de l'homme politique qui l'a gêné, c'est effectivement cet échec de cette politique, et il faut avouer qu'il ne s'était pas donné les garanties, je veux dire, d'un parti qui le soutienne à l'Assemblée. Ça a été la grande faiblesse de Mendès France. Oui, ça a été aussi son style et sa méthode qui ont fait fortune, mais ça a été sa faiblesse parce que ça a été la raison de son échec. Maintenant, quant à ça, je voudrais quand même...
On ne crée pas des partis comme cela. Et chaque fois qu'il a tenté d'utiliser comme outil soit le Parti radical, soit le PSA et le PSU, l'effondrement était proche.
Oui, il y avait quand même chez lui un goût du parlementarisme qui, de temps en temps, touchait à l'irréalisme. On ne fait pas de politique sans parti du tout. Je voulais quand même revenir sur ses propos à propos sur le syndicat. À l'horizon du problème syndical, il y a l'Europe. Et on ne l'a pas souvent souligné, mais il y avait de la part de Mendès France une sorte de réserve à l'égard du marché commun, du moins dans ses caractéristiques de libre-échange et sur la circulation d'ailleurs des populations immigrées.
Il voulait surtout qu'il l'Angleterre, c'est ça l'essentiel.
Sur les institutions quand même, sa position est très importante, parce que là encore il y a deux époques. Mendès France a voté deux fois non en 1945 à propos de la révision de la Constitution, d'un nouveau régime. Donc il était resté attaché à la Troisième République d'une certaine façon. Et on pourrait penser qu'en 58, c'est au nom d'un attachement à la Troisième République qu'il critique le nouveau régime. Non, je ne crois pas. C'est qu'entre 1945 et 58, il a fait une expérience du pouvoir, il reste attaché à la représentation parlementaire et nationale, et d'autre part, il est toujours soucieux d'efficacité, d'une efficacité qui ne serait pas la personnalisation du pouvoir. Et c'est au nom de ça qu'il critique De Gaulle, mais pas simplement une nostalgie de la Troisième République.
Je ne crois pas que le face-à-face soit la seule formule, ou peut-être la meilleure formule. C'est une des manières d'utiliser la télévision, qui est un instrument moderne, qui permet d'approcher un très grand nombre de citoyens, de leur parler. Alors, bien sûr, comme dans tous les autres moyens d'intervention, comme la réunion publique, comme la presse, etc., on peut en faire un mauvais usage, et on peut aussi en faire un bon usage. Que les hommes politiques aient été appelés à s'adapter à une nouvelle méthode de travail et d'expression, et comme en d'autres temps ils ont été appelés à s'adapter à la presse, ou à la réunion publique, ou à la radio, ce n'est pas étonnant. Ce qui est critiquable, c'est la tentation qui peut exister, et dont on a vu des manifestations chez certains, d'utiliser la télévision non pas pour faire passer leur cause, leurs convictions, défendre leurs opinions, mais pour se faire valoir personnellement, pour se transformer quelquefois en vedette, pour se mettre en avant... d'une manière un peu trop personnelle. C'est fausser le véritable sens de la télévision, qui doit être un moyen d'expression pour que l'homme politique fasse connaître ses convictions, pour défendre son point de vue.
Alors méfiance vis-à-vis de la télévision, mais par contre une très grande confiance dans la radio. On sait trop peu sans doute qu'il est un des rares auditeurs de la déclaration du 18 juin 40. Il est avec son cousin à Bordeaux et il entend le général de Gaulle à la BBC parce qu'il se posait tout simplement la question de savoir ce que les Anglais pouvaient penser de la défaite et des conditions dans lesquelles Pétain n'assumait pas ou assumait très difficilement cette défaite. Et alors donc il écoute immédiatement la BBC et il entend de Gaulle. Alors de la même manière, bien sûr, on a fait allusion tout à l'heure à ces samedis, 19 samedis où il parle en 1945, 26 samedis où il fait des causeries au coin du feu en 54-55. Dans chacune de ces causeries à la radio, il est seul. C'est un peu austère. C'est à la fois très intéressant et en même temps, on se dit, c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'il est arrivé à des taux d'écoute de 57% et de 70%, pas 70% des auditeurs qui écoutaient le samedi, et il termine quelquefois en disant aux jeunes, j'espère qu'il fera beau temps pour vous demain et que vous pourrez prendre un bon dimanche de repos. C'est absolument incroyable.
Parce que les gens aimaient bien le lait. Non, je crois qu'il y a une pédagogie de Mendès. Il y a un côté instituteur chez Mendès. Il y a un côté moraliste et instit. Et au plus beau sens du terme, hein, je suis vraiment la dernière des personnes qui critiquerait ce type de pédagogie. Je pense que c'est aussi un peu la fin d'une époque. Et c'est la fin d'un moment où ce ton d'enseignant proche du peuple peut passer sans problème. Et de ce point de vue, la critique qu'il fait de la télévision, qui est moralement tout à fait légitime, et même politiquement tout à fait légitime, et même nécessaire, je le crois, bon, elle est complètement dépassée par le mouvement, elle est complètement dépassée par le fait historique. Et moi, ça me renforce dans ma conviction que Mendès est d'abord un grand moraliste, et plus encore un grand moraliste qu'un grand politique.
Oui, oui, il a écrit d'ailleurs un très beau texte, moraliser la vie politique, et en particulier vérifier le financement des campagnes électorales, vérifier le compte des hommes politiques à la prise de leur mandat et à la fin de leur mandat, c'est très actuel.
Je crois qu'effectivement c'est un grand moraliste, mais il a une certaine idée de la politique. Que cette idée de la politique soit, par exemple, spontanément aujourd'hui, largement battue en brèche par toutes les formes de vie politique actuelles, c'est un fait. Au nom de cela, c'est difficile de dire qu'il appartient complètement au passé, parce qu'on sait bien que le rapport entre le passé et l'avenir en France est toujours complexe. On peut souhaiter que, par exemple, sa critique, la critique qu'on a entendue à propos de la notion de face-à-face, des formes d'émissions en face-à-face, on peut souhaiter qu'elle fasse réfléchir, parce que lui, à mon avis, quand il dit cela, il pense aux campagnes présidentielles. Et il a un texte qui est très beau sur l'analyse de la campagne présidentielle de 65. Quand il fait une sorte de radioscopie de ce qui s'est passé en 1965, il dit au bout du compte, la campagne a été très, très terne parce que les Français ont eu finalement un choix à faire qui a été une sorte de plébiscite au second tour. Et puis il insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu suffisamment de débat d'idées, que la pédagogie de la campagne électorale, alors là on retrouve ça, effectivement a été très faible, que les candidats n'ont pas pu présenter les programmes. Alors c'était en 1965. Mais l'on voit comment... de ce point de vue-là, ce qu'il frappait était de façon embryonnaire quelque chose qui s'est développé. Il dit quand même l'argent n'a pas joué un trop grand rôle dans cette campagne, heureusement.
Michel Field.
Oui, je crois qu'il fait partie un petit peu comme un célèbre non-candidat à la présidence de la République aussi de cette famille d'avocats venus à la politique et pour qui finalement la politique c'est tout entier le discours, l'argumentation là et surtout le discours fait pour faire passer une conviction. Alors le passage finalement de la politique discours à la politique image, ça prend alors ce type de conviction de plein fouet. Et je dirais deuxièmement que le rapport finalement de la politique et de la conviction, c'est aussi ça qui est en train de disparaître sous nos yeux. Parce que quand un autre jeune Premier ministre, il n'y a pas si longtemps, voilà, a essayé de refaire finalement ces causeries, cette fois télévisées au coin du feu, ça a été un flop lamentable parce que précisément, Mendès, lui, s'en servait pour faire passer quelque chose qui était de l'ordre d'une conviction et pas du tout de la justification d'une politique ou d'une pseudo-politique.
Ou du commentaire, parce qu'il ne commente pas.
Oui, c'était chaque fois des déclarations de foi. D'ailleurs, il parle beaucoup de la foi en politique.
Aimer le lait.
Hein, l'imagination et la foi, je crois que c'était...
Rendez l'Algérie indépendante,
c'est
enfin.
C'est un principe politique.
En fait, il est très pédagogue. C'est-à-dire qu'il a quand même le souci, ouais, exactement, de partir des besoins, des questions que se posent les gens. Et en même temps, il n'est jamais critique par rapport aux intermédiaires quand il fait ça. C'est-à-dire que dans ses causeries, chaque fois, il essaye de justifier. Vous avez déjà été informé par la presse. Vous avez déjà été informé de cela par tel ou tel organe de presse, tel ou tel organe de radio. Moi, je voudrais essayer de vous donner mon point de vue et de manière à ce que vous puissiez avoir toutes les cartes.
Mais ce qui est très étonnant, c'est que c'était un débatteur absolument remarquable. On l'a vu dans les face-à-face, que c'était donc un type qui avait une voix qui passait extraordinairement bien à la radio. Et on comprend extrêmement mal, finalement, le caractère lamentable de ce que fut sa campagne électorale avec Defferre en 65. C'est-à-dire, finalement, ce ratage... ce ratage au plan strictement médiatique. Hein, je parle même pas du ratage politique, mais ce ratage de pourtant cet animal médiatique, on dirait aujourd'hui.
Mais il ne devait pas vraiment y croire.
Oui.
Il devait pas
y croire. Je crois qu'il y avait une contradiction en 69 entre ce qu'il pensait de l'institution, justement de l'élection présidentielle, tout ce qu'il avait dit, et puis finalement la situation dans laquelle il se trouvait.
Oui.
D'ailleurs, très élégamment, Defferre a pris l'échec tout entier sur son dos disant « j'ai été mauvais ».
Les grands réformistes de cette période, Jules Ferry, Léon Blum, Salin Gros, Jean Zay, Caillaux, enfin j'en oublie, je parle pêle-mêle, et tous ces gens-là se sont heurtés au même spasme de haine et de fureur de la part de Jean Jaurès qui a été tué, de la part de gens qui étaient sincères, semble-t-il, mais qui avaient été mis en colère par des propagandes de mensonges. Ces propagandes ont toujours été suscités contre les hommes de progrès. Je n'en connais pas de cas contre les hommes de droite. Eh bien, bon, j'ai pris le risque, et en effet, j'ai connu des périodes de ce genre. Je n'ai pas été surpris, bien sûr, j'en ai eu de la peine. Mais ça faisait partie des risques du métier.
Alors, Pierre Mendès-France a été victime d'un certain nombre de critiques, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai qu'il y a eu même des campagnes contre lui, des campagnes politiques très fortes. Et en fait, il dit qu'il en a eu de la peine. On peut dire que c'est faible par rapport à ce qu'il y a eu contre lui. Alors, est-ce que c'est le cas, finalement, contre tous les hommes de gauche? Et en fait, est-ce que c'est le lot commun, finalement, que celui de Mendès-France?
Je crois que l'ensemble des hommes de gauche, et je dirais pas seulement des réformistes de gauche, mais de toute la gauche, y compris l'extrême gauche, hein, c'est leur lot, en effet, d'avoir été victimes de ce genre d'accusations. Je pense que une des raisons pour lesquelles il en est ainsi, c'est que la gauche paraît toujours illégitime aux yeux d'une fraction importante de ceux qui détiennent les clés de la presse et les clés traditionnelles du pouvoir. Une autre raison, je crois, vise personnellement Mendès, c'est que Mendès est juif et que dans l'hostilité profonde aux juifs, dans l'antisémitisme latent et qui ose rarement s'exprimer de plein fouet, tout au moins après la Deuxième Guerre mondiale et après les chambres à gaz, avoir devant soi un homme politique qui est juif et qui ne le cache pas, même s'il n'est pas sioniste et s'il a une vision de la société française complètement... société française, c'est une chance que certains ne laisseront pas passer.
Josiane Rosine.
Oui, non, je ne crois pas que ce soit le destin d'un homme politique de gauche d'être assailli de critiques. Je crois que Mendès-France a effectivement cristallisé des critiques parce qu'il est devenu un homme isolé, même dans la gauche. Il est devenu le pouvoir de dire non à tout. Ça, vous pouvez le constater, c'est l'abstention ou le non continuel de 55 à... 58 et au-delà.
Au ministre qu'à gauche, Mendès-France a été contesté, critiqué, mais n'a pas été l'objet de campagnes calomnieuses, quand même. Ça, je crois qu'aussi, il faut la même nature que celle qu'a évoquée Mme Rémériou.
Le problème est de savoir qu'est-ce que c'est que la frontière entre une campagne calomnieuse et une campagne qui ne l'est pas. Parce qu'il y a eu des campagnes communistes menées contre Mendès-France qui ont été assez énergiques.
Il les a pas ménagés non plus.
Oui, je dirais, ce sont des questions qui étaient celles des prix des salaires, de l'Algérie, de des nationalisations, mais qui ne tenaient pas à la personne de la même façon
de
Mendès.
Oui, les coups qu'il a pris de la part des communistes, il les a un petit peu cherchés, parce que chaque fois qu'il voulait rassembler les Français dans une volonté nationale, il s'en prenait aux communistes systématiquement et sur tous les thèmes.
Oui, avec une constance qui est un peu surprenante, c'est vrai. D'autant que par ailleurs, il reconnaissait à l'extrême gauche non seulement sa place, mais même un rôle prioritaire en cas de nécessaire réponse au fascisme, et qu'il l'a dit très clairement.
Michel Field.
Oui, je crois quand même, n'en déplaise à Josiane Rosine, que les officines d'extrême droite et une certaine presse et une certaine tradition de la presse d'extrême droite polarisent quand même sur les hommes de gauche et d'autant plus qu'ils sont au pouvoir, mais pas seulement. Je veux dire, on se souvient aussi de la façon dont ces campagnes électorales locales ont été émaillées d'incidents ou effectivement de tracts anonymes, antisémites, etc. Ça, Josiane, que vous le vouliez ou non, c'est quand même plutôt une tradition de la droite française qu'une tradition de la gauche française. Dieu merci. aussi.
Enfin, vous avez parlé d'extrême droite. Je crois qu'il faudrait clarifier les choses, hein, parce que en 55, l'extrême droite, sûrement pas le Front National aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut quand même modérer les choses.
Bah, Sévignancourt crie à mort Mendès lors du débat de l'âge.
Il a eu des conversations et des pourparlers avec Michel Debré qui ont été tout à fait courtois et tout à fait dans la compréhension mutuelle.
On va donc rester là pour cette semaine, puisque la semaine prochaine, nous consacrerons une deuxième émission à Mendès France et au mendésisme. Une deuxième émission qui tournera autour des problèmes du tiers-monde, de la décolonisation, autour des problèmes de l'armée, et puis autour des problèmes du Moyen-Orient, sur lesquels Mendès France est particulièrement d'actualité. Alors, pour prolonger cette émission, on peut que conseiller la lecture du quatrième volume des œuvres complètes de Mendès France qui vient de sortir aux éditions Gallimard, Pour une République moderne. C'est justement le texte central de 61-62 qui est ainsi publié. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les moments où ce texte est préparé, et que c'est un travail, je dirais, assez fructueux, parce que on voit les alentours, les discussions de Mendès France autour de la préparation de ce texte qui s'appelle La République moderne. Et puis, on ne peut que conseiller aussi la biographie de Mendès France, écrite par Lacouture. Elle est très enlevée. Elle va peut-être pas au fond des problèmes que nous avons abordés aujourd'hui, mais c'est un livre très suggestif, en tout cas, et très stimulant. Et puis peut-être le livre sur le mendésisme, qui a été publié par les éditions Fayard, sous la direction de Bédarida, et qui aborde un certain nombre des problèmes que nous avons abordés aujourd'hui. Alors donc, à mercredi prochain.
Cette première partie du panorama consacré à Pierre Mendès France a été diffusée la première fois le 25 mai 1988 sur France Culture. À suivre et d'ici là à télécharger et réécouter sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.